je vais laisser la place à un fier doctorant au Centre de recherche risques et vulnérabilités à Caen, donc en sociologie, Simon Leroulet, qui va nous faire une intervention sur la scène Do It Yourself, le succès au prisme de l'éphémère. Et comme la dernière fois que je t'ai vu, c'était la journée sur le DIY. J'aurais envie de te dire la scène DIY ou Do It Together, vu qu'on en avait parlé. Voilà, je te laisse parler de ce temps punk. On a parlé de temporalité, donc ça permet de rebondir.
Merci Nicolas, merci à Solveig et Luc et à Pierre. Quand Pierre m'a demandé de préparer quelque chose pour cette journée, je me suis dit oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Le sujet, il est effectivement... Le problème, c'est que je me suis trouvé bien emmerdé, en réalité, puisque réussir dans le punk nécessite déjà de commencer à définir ce que peut être la réussite. La question de la réussite ne peut pas être pensée de façon neutre. C'est une catégorie pourtant qu'on mobilise de façon relativement neutralisée, enfin qui apparaît neutralisée, alors qu'elle ne l'est pas. Donc j'ai fait mon boulot de sociologue et j'ai commencé d'abord par essayer d'écarter un certain nombre de prénotions, fidèle à Durkheim, partant de deux citations a priori banales et médiatiques sur la réussite, qui me semblaient donner une tonalité un petit peu de ce que peut être la réussite dans notre société ou comment elle peut être entendue. D'abord, savoir qu'on considère la réussite antagoniquement à l'échec, ça c'est le béaba. Par exemple, si à 50 ans on n'a pas de Rolex, c'est qu'on a raté sa vie. Donc en gros, la réussite serait d'avoir une Rolex à 50 ans. La réussite est ici opposée au fait de ne pas avoir les capitaux, les ressources financières nécessaires pour s'offrir un produit de luxe. Donc la réussite semble être, dans notre société, selon une certaine idéologie dominante, mesurable au capital économique. L'auteur de cette citation, hein, qui est pas directement Nicolas Sarkozy, hein, c'est Séguéla, le publicitaire, sans justifier d'ailleurs, en assurant que même si on est clochard, on peut arriver à mettre 1500 euros par mois de côté. Dans ce cas, on voit alors la confirmation, dans ce « même si », qui confirme l'idée que le clochard, l'archétype du pauvre, est synonyme aussi de l'échec. On aurait donc d'un côté la réussite qui serait incarnée par une bourgeoisie, de l'autre côté un échec qui serait incarné par la pauvreté, une nouvelle forme de prolétariat ou d'hyperprécariat. La deuxième citation, plus récente, m'a semblé intéressante, puisqu'il y a eu quand même un changement idéologique, à mon avis, dans la séquence politique actuelle. C'est une citation de l'actuel président qui disait « Ne pensez pas une seule seconde que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non, parce que vous aurez appris dans une gare. Une gare, c'est un lieu où l'on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. » Donc là, on n'est même plus sur la question d'un antagonisme entre la réussite et l'échec, mais entre la réussite et le fait de n'être rien. Dans ce cas, il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien donc. Ceux qui réussissent seraient ceux qui entreprennent et dont l'entreprise réussit. Et puis, ceux qui ne réussissent pas dans cette entreprise ne seront rien, au même titre que ceux qui n'étaient déjà rien et qui n'entreprenaient rien. On se rend alors compte que la réussite est une catégorie qui traduit des valeurs dominantes dans une société, ce qui signifierait alors également qu'il peut y avoir des définitions de la réussite qui seraient opposées à cette définition principielle. Donc des définitions qui seraient celles portées par d'autres valeurs politiques, d'autres valeurs idéologiques que seraient celles de l'idéologie dominante. On pourrait donc, à partir de ces définitions relativement admises dans le sens commun, considérer la réussite non pas comme effectivement l'accumulation de capitaux ou comme la capacité à entreprendre et à réussir dans son entreprise, mais comme la capacité des acteurs, et en l'espèce dans le terrain que j'étudie, la capacité des groupes, des labels, des fanzines, des promoteurs non pas accumuler des capitaux économiques, mais plutôt, on le verra, à s'accorder en valeur, accorder leur pratique en valeur. Car effectivement, Pierre l'a rappelé, la définition aussi relativement commune de la réussite, même dans la scène punk, serait celle effectivement d'avoir une audience large, une diffusion large, potentiellement aussi de réussir la professionnalisation. Et dans le cadre du terrain que j'étudie, la scène punk Do It Yourself, donc ceux qui m'ont déjà entendu parler le savent, mais pour en dire deux mots, c'est une scène qui refuse la professionnalisation, qui refuse une forme de dépendance, de soumission de la création artistique à des valeurs capitalistes. Ces personnes-là, effectivement, se posent la question pour eux, qu'est-ce que réussir pour eux si effectivement c'est pas avoir une audience plus large, si c'est pas avoir plus de sous, si c'est pas avoir du prestige. Alors on se rendra compte que cette question du prestige se jouera sur un autre registre. Alors, pour ce faire, ce que j'ai commencé à poser comme question, c'est effectivement d'abord, dans une première partie, les attendus de la réussite, et ensuite les conflits relatifs à ces attendus de la réussite. D'un point de vue, pour reprendre un peu ce qui a été fait précédemment par Flavien, effectivement, je pense qu'on peut trouver des éléments de définition de ce que pourrait être la réussite dans la sociologie, notamment à travers les questions d'identité, de distinction, et d'adhésion, évaluation, parce que la réussite s'évalue bien évidemment, donc de réception de la réussite. Alors, partant de là, la sociologie dans laquelle je vais réussir à trouver quelques bribes pour réussir à penser cette question de la réussite qui m'a vraiment piégé, c'est la sociologie des mouvements sociaux qui considère la réussite comme le moment où se définit une identité, où se nomme un adversaire, et où l'activité d'un mouvement social résonne à la population concernée, c'est-à-dire au moment où il y a un alignement entre les aspirations du mouvement social et les valeurs des individus. Donc une espèce de dialectique qui se met en place entre à la fois le discours énoncé, donc les valeurs, etc., la pratique, mais également la réception de cette pratique et sa diffusion. Donc parmi les attendus de la réussite, sur la question de l'identité et de l'origine d'un commun entre ces individus. Il y a effectivement dans la scène punk Do It Yourself un certain nombre de valeurs qui vont être portées. L'anticapitalisme, l'antisexisme, l'antifascisme, l'antihomophobie sont un peu les grands repères, les grandes balises de ce terrain de recherche. Alors, il faut observer les pratiques relatives à ces valeurs, les pratiques mises en place par rapport à ces valeurs pour évaluer la réussite ou non. C'est-à-dire voir à un moment donné comment elles s'incarnent, ces valeurs, dans le concret, dans l'expérience brute. Cette scène DIY dont j'ai parlé, effectivement, vise à organiser la production, la création et la distribution de manière autonome, dans une volonté affirmative de l'autonomie et de l'indépendance. Cette démarche est également distinctive en ce qui conduit au point suivant, puisqu'en s'organisant de manière autonome des circuits traditionnels de la musique, c'est-à-dire des industries culturelles, les acteurs et les actrices de cette scène Do It Yourself se distinguent des acteurs des industries culturelles. Le non-profit, qui est aussi une espèce de, à la fois d'idéologie, mais surtout de bannière, quelque part, qui permet aux gens de s'identifier les uns aux autres, repose sur ce refus de la professionnalisation, considéré par ces activistes comme la soumission de la création artistique à l'exploitation et l'aliénation salariale. Cette démarche permet de mettre en place des formes de distinction sociale, et par là même de révéler des mondes. Distinction sociale, puisqu'il y a ceux qui, effectivement, resteraient dans l'underground et ceux qui auraient la tentation du mainstream qui serait vue comme potentiellement une trahison. D'un point de vue de l'adhésion et de l'évaluation, l'identité et la distinction permettent à la fois de créer une imperméabilité relative du monde punk do it yourself par rapport à un autre monde punk ou à un monde rock, etc. Mais également de renforcer le sentiment d'appartenance au groupe social, à une sorte de communauté. L'évaluation ne va donc pas tant se faire sur la musique et sur l'esthétique musicale, dans ce terrain-là, hein, mais sur l'accord entre la pratique d'un groupe, d'un label, d'un fanzine, et les valeurs, les balises politiques énoncées précédemment. On considérera donc, à partir de ce moment-là, la réussite comme effectivement la capacité des acteurs à adopter une démarche éthique cohérente aux valeurs, et ainsi aussi cohésive. Ce qui va poser un problème, en fait, et c'est là que le piège intervient de façon plus brutale, c'est que, car ce monde, qui se veut une communauté, quelque part, cohabite avec le monde contre lequel il lutte. Et au centre de la définition commune et dominante de la réussite, cette définition endogène à mon terrain de la réussite va être un petit peu bousculée, puisqu'il peut y avoir des porosités au niveau des démarches entreprises. Ce qui mène à des conflits entre les deux mondes, entre le monde relativement commun, etc., et ce monde qui se veut oppositionnel. On pouvait définir dans le mainstream la réussite comme la capacité d'un groupe, d'un label, d'un fanzine à tenir sur le long terme. On va se rendre compte, dans ce cas-là, que pour le Do It Yourself, la question du long terme n'est pas forcément interrogée de la même manière. Il ne s'agit pas tant pour les activistes de faire tenir le groupe, le label, le fanzine, etc., sur le long terme, mais de tenir eux-mêmes en tant qu'individus, dans le respect de ce principe éthique posé préalablement, sur le long terme. C'est-à-dire la capacité des individus à tenir leur pratique dans une conduite éthique qui ne déroge du moins possible à la règle et qui reste inscrite dans la communauté. Dans ce cas, du coup, la capacité des individus à cumuler les expériences peut être un élément d'évaluation de la réussite, c'est-à-dire qu'il ne s'agira pas tant effectivement de faire durer le groupe, le fanzine, le label, mais potentiellement aussi que ces expériences-là puissent ne pas durer. Ce ne serait pas un problème à partir du moment où la démarche qui conduit à ces expériences serait, elle, intègre. Ainsi, l'éphémère peut, contrairement à ce qu'en avait dit Fabien Hein dans son travail sur le do-it-yourself, non pas caractériser un moment contre-productif de l'anarcho-punk, mais au contraire caractériser sa force, c'est-à-dire sa capacité à se régénérer perpétuellement et à revitaliser au sein de la communauté les principes éthiques de la dite communauté. Ce phénomène génère pour autant une accumulation, c'est-à-dire qu'à la fois on va vouloir avoir une définition relativement différente de la réussite que celle qui peut être portée par le mainstream, ou par celle portée par, par Jacques Séguéla sur la question effectivement de l'accumulation de capital économique, c'est qu'il va y avoir une accumulation de capitaux symboliques. C'est-à-dire que la réussite, finalement, ceux qui réussissent sont ceux qui ont accumulé primitivement du mieux qu'ils peuvent, vous voyez, les capitaux symboliques. Et on se rend compte qu'effectivement, des formes de distinction sociale et de hiérarchie peuvent exister au sein même de cette scène-là, notamment sur l'accumulation de capitaux symboliques. Ce qui pose effectivement un problème, parce qu'à partir du moment où il y a le même phénomène d'accumulation, même si ce ne sont pas les mêmes types de capitaux, eh bien, on pourrait voir une homologie structurale, au sens de Lucien Goldman, c'est-à-dire une homologie entre à la fois la définition de la réussite classique et la définition de la réussite dans la scène punk, sauf que ça ne passerait pas par l'argent, mais bien évidemment plutôt par le prestige. Ce qui pose une question anthropologique fondamentale. Alors, cette cohabitation des mondes peut produire aussi des glissements. C'est-à-dire qu'un groupe de la scène punk do-it-yourself, qui y réussit, c'est-à-dire qui, effectivement, maintient ses principes éthiques, etc., s'il rencontre un succès dans le monde du dehors, peut être amené à être déprécié par la communauté en même temps qu'il gagne du public. Alors, il ne s'agit pas de penser que d'un seul coup, les gens vont faire les rageux, comme on dit maintenant, en disant « Ouais, ils ont du succès, donc c'est des bolos ». Non, il s'agit de dire ça va forcément conduire à un moment le groupe à devoir adopter une démarche qui peut être quelque part antagonique aux principes. C'est la fameuse dialectique mainstream underground, très compliquée, qui est bien connue. C'est-à-dire que les activistes dans le terrain vont percevoir cette réussite à l'extérieur comme un sentiment de trahison et en estimant qu'il y a une position intenable, quelque part, entre le discours énoncé et à la fois les espaces que ces groupes vont être amenés à fréquenter, les principes qui, quelque part, vont être travaillés. Oui, vont être travaillés. Et d'ailleurs, la justification des groupes concernés, ceux qui réussissent en dehors du monde DIY, va souvent être la même, mais en même temps, ça nous permet de diffuser notre message politique à une plus large audience. Bon, c'est le classique, que l'on songe à un groupe comme Against Me, qui est un groupe anarcho-punk, qui du coup a rencontré un succès énorme, qui a signé chez Sire Records, donc sur une major, avant de revenir sur un format d'autoproduction, mais qui remplit des énormes salles de concert, voire qui a pu remplir des stades. Ce groupe-là a dit oui, mais au moins notre discours politique, il est plus largement diffusé. Et puis par ailleurs, le bassiste avait déclaré dans une interview, préfère gagner ma vie en faisant de la musique plutôt que d'aller pointer à l'usine et être d'autant plus aliéné et salarié, et exploité. Ce qui n'était pas une forme de mépris de classe, mais plutôt justement de dire « j'ai la chance de pouvoir ne pas vivre l'aliénation et l'exploitation, autant l'éviter ». Sauf que à partir du moment où on est dans une major, qu'on est dans le mainstream, les questions de contraintes de la production ne sont plus forcément les mêmes, etc. Donc ça reformule aussi tout un tas de démarches pour le groupe. Mais moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est la question politique directement posée à cette communauté do it yourself. Parce que ces groupes-là, quelque part, ne décident pas d'un seul coup d'avoir du succès dans l'autre monde que le monde de do-it-yourself. C'est que d'un seul coup aussi, leur musique parle. Alors elle parle effectivement, ça peut être par rapport à une sincérité qui va être exprimée, ça peut être par rapport à une situation sociale qui fait que le punk va connaître un certain succès parce qu'il utilise les mots, le vécu et les sentiments d'une jeunesse, par exemple, ce qui a été montré dans les exposés précédemment. Et en même temps, cette scène qui est très politisée, se pose pas, à mon avis, la question stratégique qu'il conviendrait de se poser. C'est-à-dire que la question politique qui est posée, c'est que ce phénomène, cette réussite dans l'autre monde, révèle aussi les échecs de cette communauté, notamment les échecs matériels. C'est-à-dire que c'est un monde qui se veut autonome, mais qui pour autant ne dispose pas effectivement des espaces d'autonomie suffisants permettant d'augmenter les capacités d'accueil pour les concerts, tout simplement. C'est-à-dire que si effectivement, dans la période des années 80 jusqu'aux années 90, les squats sur Paris, dont tu parlais tout à l'heure, c'était des endroits relativement importants, qui avaient une capacité d'accueil relativement importante. Les nouvelles formes de répression, etc., conduisent aussi à ce qu'il y ait moins de squats, qu'ils aient moins de capacité d'accueil, et qu'à un moment, un groupe comme Against Me, qui remplit un stade, ne pourrait pas venir jouer dans le petit bar à Montreuil, à la Comédia, où personne, en fait, pourrait les voir. Et c'est la question qui s'est posée pour ce groupe-là, Against Me, c'est pour ça que je le prends. C'est que ce groupe-là, je les ai vus deux fois à Caen, en 2004 et 2005, d'abord dans un café-concert, qui était effectivement l'équivalent de la Comédia. La salle était remplie les deux fois, la deuxième fois, il y avait 200 personnes, on ne savait pas comment les gens pouvaient tenir. Super concert, moi je suis grand, je voyais tout, bon, voilà. Eux étaient déçus du fait de se dire que quelque part ils jouaient, mais en fait ils jouaient pour trois personnes au lieu de jouer pour toutes les personnes qui étaient venues les voir. L'année suivante, quand ils sont revenus, après avoir signé sur le label Fat Records, label tenu par Fat Mike de NoFX, ils ont eu une audience plus large et ils ont joué à Caen dans une SMAC. Déjà, les critiques commençaient à se faire ressentir. L'année suivante, ils ont signé sur une major, et effectivement, ils faisaient plus qu'une date en France par an, et c'était dans des salles comme la Boule Noire, le Trabendo, etc. Donc quelque part, un sentiment de trahison. Ce groupe-là, qui avait porté les valeurs d'une scène d'une manière relativement radicale dans ses paroles et dans ses gestes, se retrouvait d'un seul coup à devoir jouer, et non pas à vouloir jouer, en dehors des espaces du milieu dans lequel ils s'originaient. Donc la question stratégique qu'il convient d'évoquer d'après moi, c'est effectivement la façon dont la réussite d'un groupe doit être interrogée aussi par rapport à la réussite d'une communauté à persévérer sur le long terme, c'est-à-dire à s'assurer aussi, en fonction des contraintes sociales et répressives, de sa capacité de revitalisation non pas d'adaptation, mais de capacité à maintenir une opposition relativement réflexive qu'il manque souvent à ce milieu qui se tient énormément sur ses acquis. Pour conclure sur cette question de la réussite, à travers cette question effectivement de comment la réussite d'acteurs interroge la réussite d'un milieu, je tiens à rappeler quand même que dans un milieu qui a de fortes valeurs communautaires, la chose qui m'intéressait était quand même de montrer que la question de la réussite, le béaba sociologique dit que quelque part la communauté c'est ce qui nuirait à l'individualisme, au sens noble de l'individualisme, c'est-à-dire à la capacité de mettre en jeu une liberté individuelle. Quelque part, dans cette scène DIY, la réussite étant centrée sur la capacité des individus à tenir sur le long terme, on se retrouve non pas à quelque chose qui viendrait enclore totalement l'individu, mais au contraire aussi à une liberté de l'individu dans ses choix, etc., à pouvoir faire valoir ses capitaux symboliques, etc. Pour autant, effectivement, la question qui reste à poser d'après moi, c'est celle pour la scène punk, si elle veut persévérer dans sa forme oppositionnelle, si elle veut atteindre l'âge de maturité dont parlait Flavien tout à l'heure, c'est effectivement sa capacité à se doter des outils nécessaires pour réussir à maintenir son autonomie, pour réussir à la fois à tenir ensemble sa capacité à persévérer et sa capacité à garder sa fougue adolescente. Ouais.